7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec les tchatcheuses, comme chaque mois. Je reçois trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité de leur choix. Et en toute subjectivité, aujourd'hui, il y a autour de la table la journaliste chinoise Yihan Hu. Bonjour.
Bonjour.
On peut vous voir sur la chaîne de télévision China Business Network. La norvégienne Vibeke Knoop Rashlin. Bonjour Vibeke.
Hi.
Correspondante en France pour le quotidien Aftenposten, qui est un peu l'équivalent du Monde, on peut dire ça comme ça. Et l'Argentine, Nathalie Kant. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
J'allais dire hola.
Hola.
Journaliste à Courrier International et également pour le quotidien argentin La Nación.
La Nación.
Très vieux quotidien.
Oui, argentin. 140 ans.
Oui, rien que ça.
Ouais.
Plus conservateur ?
Centre-droite.
Et quant à vous, évidemment, les voisines, si vous êtes une femme journaliste, vous pouvez nous appeler dès maintenant pour nous faire partager, si vous le souhaitez, un coup de cœur ou un coup de cœur très personnel sur un sujet qui concerne votre pays. Tiens, d'ailleurs, il y a un internaute, mais un voisin. Alors, évidemment, d'emblée, il est exclu du jeu, qui nous demande est-ce qu'il y aura une tchatcheuse sénégalaise. Non, pour le moment, il n'y a pas de tchatcheuse sénégalaise, mais elle a le droit de téléphoner 331 84 22 71 71. Et évidemment, tous vos commentaires en direct, les voisins, sur notre fil Facebook.
Tchatcher, c'est parler avec plaisir, aimer parler, y prendre du plaisir.
Les tchatcheuses, elles ont du caractère.
Elles parlent beaucoup de choses. To chat, ça veut dire causer, sans contrainte.
Elles décident pour elles-mêmes, elles sont en bande.
C'est le plaisir de dire ce qui vous passe par la tête.
Ça parle.
Dire tout ça, ça fait du bien.
Les tchatcheuses sont énervées.
Ça fait du bien et parfois ça fait mal. Et c'est notre tchatcheuse norvégienne qui ouvre le bal aujourd'hui avec une bonne leçon de gouvernance venue du Nord à l'adresse de la France, cette république décadente où l'on ne paye même pas ses impôts. Vibeke Knoop Rashlin, lâchez-vous un bon coup.
Oui, c'est quand même assez curieux parce que chez moi en Norvège, je sais que ça peut paraître dingue en France, mais... nous payons les impôts avec plaisir.
Surtout quand on est ministre et député, c'est ce que vous voulez dire ?
Aussi, mais je vais dire tout le monde, parce que on sait très bien que les impôts, ça sert à quelque chose qui est très utile, la santé publique, les écoles, les routes, enfin j'en sais rien, mais toujours pour la communauté. Donc c'est vraiment, c'est pas seulement un devoir, c'est un plaisir. Je sais qu'en France, ça fait bizarre, mais c'est pourtant
bon,
vrai.
Mais alors, au lieu de tourner autour du pot, là, vous voulez...
Non, mais je voulais... C'est important de comprendre pour la différence. Parce que, justement, quand j'ai vu l'exemple français le plus récent en date, le ministre qui est déjà plus ministre au bout de 9 jours, Thomas Thévenoud, qui ne payait pas ses impôts.
Ouais, qui était secrétaire d'État chargé du commerce extérieur et du tourisme et des Français de l'étranger.
Exactement, et qui non seulement ne payait pas les impôts, mais ne le faisait pas depuis des années. Quoi. Donc c'est quand même assez incroyable.
Payer en retard avec des pénalités.
Oui, peut-être, mais je vais dire, je trouve l'exemple, enfin, les bras m'en tombent, parce que, premièrement, qu'il ne dise rien au moment où il apprend sa nomination. Et surtout que le gouvernement Valls, qui pourtant a les espions qu'il faut, qu'il n'ait pas su ce problème-là, qu'il avait cette casserole-là avec lui.
Ah, alors attendez, quand même la haute autorité pour la transparence de la vie publique a fonctionné là, à ce moment-là, puisqu'elle a dit, attendez, il y a un problème.
Oui, mais 9 jours après.
Oui, d'accord. Ça aurait dû être fait avant
bien
la
sûr,
nomination.
Bien sûr,
ouais. On aurait dû consulter la haute autorité.
On a consulté la haute autorité et c'est bien qu'elle existe maintenant. Peut-être... que avec ces très mauvais exemples, Cahuzac d'abord et maintenant Thévenoud, on va enfin avoir une attitude un peu plus saine et des gens qui payent leurs impôts.
Alors, il compte, ce monsieur, garder son mandat de député. Pour l'instant, il n'y a aucune loi qui permet de démettre de ses fonctions un élu fraudeur, hein, ouais. Même s'il y a des députés, notamment à l'UMP, qui aimeraient bien qu'il y ait une procédure de déchéance rapide
ça serait
qui
normal.
Puisse se faire. Comment ça se passe chez vous, d'ailleurs, en Norvège?
On est démissionné pour bien moins que ça. C'était pas en Norvège, mais vous vous souvenez de l'exemple suédois, la ministre qui payait les couches de son bébé et des chocolats avec la carte de crédit du gouvernement. Donc, je veux dire, c'était des sommes dérisoires, mais c'est une question de principe.
Ouais, mais alors finalement, chez vous, il y a surtout des mentalités différentes ou également des un système.
Il y a aussi tout un système. Vous avez bien fait de me le rappeler, parce que au moment où les feuilles d'impôt de l'année sortent, c'est-à-dire à peu près maintenant, les impôts ouvrent leur registre au vu et su de tout le monde. C'est-à-dire que moi, je pourrais regarder combien vous gagnez et combien vous payez d'impôts par une simple demande sur Internet.
Ah oui, c'est vraiment en libre service.
Ah, c'est libre service et ça concerne tout le monde, y compris...
Ah oui.
Y compris des gens célèbres, des milliardaires, vous pouvez consulter. D'ailleurs, on s'aperçoit que ce ne sont pas les milliardaires qui payent le plus d'impôts. Et on peut aussi presque faire de la délation. J'aime pas trop ce côté-là, mais effectivement, si on trouve que le voisin qui a trois Ferrari dans son garage...
Et qui a un paye bizarre, parce que quand on va sur Internet, ça correspond pas,
voilà,
c'est ça.
On peut le signaler.
Ouais. Bon, Nathalie Kant, qu'est-ce que ça vous inspire?
Non, mais déjà, au début, quand vous avez commencé à parler, que vous dites ici, on n'aime pas trop. C'est-à-dire, moi, je trouve... Bon, ça fait 6 ans que je suis là. Oui, c'est vrai, ils aiment pas trop, mais ils les payent. En Argentine, on n'aime pas et on les paye pas. C'est-à-dire, c'est encore pire. Donc ici, oui, les Français critiquent parce qu'ils aiment prendre une position sur tout, mais finalement, ils les payent. Et c'est un petit peu mal vu ne pas les payer. En Argentine, maintenant, bon, par exemple, les hommes politiques, je commence à penser un peu, réfléchir pendant que vous parlez. Oui, les hommes politiques, maintenant, évidemment, ils doivent les payer parce qu'ils sont très regardés. Mais après, je sais pas, on a en ce moment en Argentine un vice-président qui est soupçonné d'avoir fait des affaires terribles en faisant acheter par quelqu'un d'autre une entreprise pour faire la fabrication de billets et il est toujours au gouvernement. Donc,
alors, ceci dit, là,
moi, je le vois comme un exemple.
Les réactions en France ont quand même été assez saines. Hein, ça a fait l'unanimité.
Oui, ça a fini par faire l'unanimité. Et je
pense
que
ça a pas fini, ça a démarré très vite,
oui,
quand même. Hein,
et, oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Mais je pense que ça, c'est à cause de l'affaire Cahuzac, parce que pendant l'affaire Cahuzac, qui était plus énorme, il n'y avait pas tout de suite les mêmes réactions. Donc je pense que Thévenot, il paye aussi un peu pour Cahuzac.
Yann-Hu, qu'est-ce que ça vous
Je crois que ce genre de geste, en fait, de ne pas payer d'impôts ou bien de le payer tardivement, ce genre de gestes sont encore très opaques en Chine. Déjà, pour la publication de patrimoine personnel, donc maintenant, c'est vraiment sur la table. Là, donc c'est d'ailleurs avec la campagne anticorruption, donc ça devient de plus en plus réclamé par les gens et une fois découvert il y aura des pénalités très très sévères.
C'est clair qu'Internet va changer beaucoup la donne et a déjà commencé de le faire. Yi Han Hu, vous en tant que journaliste chinoise, vous souhaitiez nous parler des inégalités face à l'éducation en Chine et notamment alors ça on en parle peu, la flambée du prix de l'immobilier dans certains quartiers où il y a précisément les bonnes écoles.
Exactement.
À Pékin, on se croirait un peu à Paris pour certains quartiers.
Oui, parce que c'est la rentrée, donc j'ai ce sujet en fait à vous proposer. Donc là, je parlerai en fait de la politique de scolarisation de proximité. Donc ça fait partie d'une réforme donc qui est sortie de cette année. Avant, ce qui s'est passé, c'est que les élèves peuvent choisir leurs écoles en fonction d'équipement, de professeurs, de réputation. Donc les bonnes élèves, comme en France, apprennent souvent les meilleurs élèves des autres quartiers. Mais en réalité, ce qui s'est passé vraiment, c'est que dans les écoles, il y a aussi un certain nombre d'élèves dont les parents ont suffisamment l'aisance, en fait, le moyen pour verser un peu ce qu'on appelle les frais de contribution.
À
l'école. Donc, en fait, ça veut dire, ça pourrait être avant, c'était à peu près 20 000 yuan, par exemple. Donc, c'est pour le soutien de contribution. Enfin, c'est un autre moyen, en fait, pour acheter une place. Et donc, c'est vraiment très, très critiqué et c'est répandu comme phénomène, donc, dans les grandes villes. Pour répondre à cette critique de inégalité à l'éducation. Donc cette année, donc on a sorti cette politique de
donc une forme de carte scolaire finalement.
Exactement.
Vous allez à l'école du quartier,
exactement.
Ça, à Pékin.
Par contre, ce qui a entraîné l'émergence d'un autre phénomène social, donc c'est la flambée du prix immobilier dans les bons quartiers en fait à Pékin. Par exemple,
tout a un effet pervers finalement.
Exactement, parce que dans certains quartiers des bonnes écoles, le prix par mètre carré maintenant peut atteindre jusqu'à 300 000 yuan, égale 38 000 euros. par mètre carré. Sachez que le prix, que le salaire moyen mensuel d'un salarié à Pékin est 5800 yuan. Donc, ça égale 731 euros. Donc, j'ai vu en fait une photo d'une pancarte immobilière près d'un bon quartier à Pékin. Ils réclament qu'il faut gagner la ligne de départ. Donc, pour acheter un bon appartement.
Ça, alors, c'est propre à Pékin parce qu'on a instauré une forme de carte scolaire, ou est-ce qu'on observe aussi ce phénomène-là à Shanghai, qui est la première ville de Chine, ou même à Canton, à Shenzhen?
Ce qui est très spécial, c'est à Pékin, on préfère toujours résoudre les problèmes par des mesures politiques. Mais à Shanghai, des fois,
C'est la ville du pouvoir.
Voilà, exactement. Donc, par des propositions, des mesures. Donc,
Ceci dit, c'est quand même un phénomène, c'est un petit phénomène, c'est un phénomène de l'élite dans l'élite, ce phénomène de flambée de l'immobilier dans certains quartiers à Pékin parce que les parents veulent mettre leurs enfants dans les bonnes écoles.
Mais ça creuse davantage l'écart.
Ouais. Mais à l'échelle du pays, les vraies inégalités, ça demeure toujours les inégalités ville-campagne, pour l'accès à une éducation de bonne qualité.
Oui. Déjà, ceux qui ont le moyen.
Mais là, vous parlez, c'est éducation publique ou privée? Ce sont des écoles.
Public. Oui, mais aussi il y a plus en plus d'écoles privées en fait qui proposent de bonnes éducations avec des bons professeurs. Ça existe aussi.
C'est vrai qu'à Paris, ceci dit, dans le 5e arrondissement, s'il n'y avait plus le lycée Henri IV et le lycée Louis le Grand, combien coûterait l'immobilier? De combien descendrait l'immobilier?
Je ne sais pas,
dans le 5e arrondissement.
mais pas très loin. Mais en Norvège, nous n'avons pas exactement le même problème parce que, certes,
tout
l'immobilier. Non. Mais au contraire, c'est un pays très cher, mais c'est aussi un pays où les gens ont un niveau de vie très élevé. Donc, ils sont prêts à payer ce qu'il faut, mais il y a relativement peu d'écoles privées. Par contre, nous avons un autre problème avec les écoles, c'est que dans certains quartiers de la ville, il n'y a pratiquement plus, entre guillemets, de blancs norvégiens. Il n'y a que des enfants d'immigrés. Et dans une école, il y avait un enfant blanc. Donc, ses parents ont dit, on va essayer, c'est bien, etc., etc. Mais l'enfant a craqué et finalement, maintenant, ses parents l'amènent.
Des quartiers ghetto qu'on retrouve dans d'autres villes européennes. Vous restez avec nous, les tchatcheuses. On donnera bientôt la parole à Nathalie Kant. Vivre en ville à Barcelone, c'est pas forcément de tout repos. Waking up in a pile of shit. The whole bed is full of it. And eggs keep growing out of our ears. But we keep swimming in this wild oceans of salty tears. suédoise Elephant Down on Life. La parole est à notre chatcheuse Nathalie Kahn, argentine, sauf que vous voulez nous parler de Barcelone en Espagne. Ouais. Qui ne rêve pas d'habiter à Barcelone? En tout cas, on aime bien y aller pour le week-end. Sauf que travailler à Barcelone à côté de ceux qui font la fiesta, c'est pas forcément facile.
Oui, c'est ce qui se passe, c'est que il y a chaque fois plus de tourisme. Mais il y a un tourisme...
17 millions, hein, je crois, par
an. Moi, j'ai pas regardé, j'étais en train de penser à ça. Je me disais, j'espère qu'Emmanuel ne va pas me demander combien de touristes arrivent à Barcelone.
Ça n'a pas loupé.
Qu'elle pose pas la question. Non, mais il y a plein de touristes, mais c'est d'après les quelques voisins de Barcelone. C'est une espèce de tourisme qu'ils appellent « low cost ». C'est-à-dire, c'est un tourisme...
Bon, on a pris un billet d'avion pas cher.
Oui, Barcelone, c'est beaucoup moins cher. Il y a plus de soleil, c'est plus sympa, par exemple, que Paris. Ouais.
Et puis surtout, on va pas à l'hôtel.
On va pas à l'hôtel. On va aussi à des logements qu'on loue par Airbnb. Et du coup...
Vous de citer carrément le site, vous, d'accord. Ah, bon. non, mais il n'y a pas de problème. On loge chez l'habitant,
tout le monde l'utilise. Oui.
Plus ou moins. Enfin, on loue un appartement, un studio.
Oui, et du coup, ce qui leur arrive, c'est que, par exemple, l'autre jour, il s'était mobilisé parce que la goutte qui a fait
déborder le vase,
oui, c'était des touristes italiens nus qui étaient arrivés à 9h du matin. Au fait, si vous regardez les photos, ils ont au moins des corps splendides, donc ça arrange un peu la situation, mais qui arrivaient à 9h du matin faire des achats au supermarché. Au fait, ils n'allaient pas faire
tout
des...
nu.
C'était juste pour être tout nu, oui, parce que où ça a commencé, ce problème, c'est à la Barceloneta, c'est là où il y a le port.
Le quartier festif de Barcelone.
Et c'est où il y a exactement les discothèques, les boîtes pour aller danser, tout ça. Et donc, ils sont dans la rue, ils boivent de l'alcool. Moi, je pensais un petit peu à Paris, où c'est une ville qui reçoit 40 millions de touristes par an.
Enfin, on vient moins à Paris faire la fête qu'à Barcelone.
Oui, c'est ça.
Hein,
mais je trouve que quand même, c'est un petit peu mieux géré, peut-être. Parce que moi, je trouve... C'est-à-dire, oui, bon, il y a des quartiers qui sont un peu contaminés, évidemment, par les touristes. Mais après...
Quand vous y allez.
Oui, exactement. Mais oui, après...
Mais parce que là, attendez, c'est quand même pas évident d'avoir des recours. Alors, pour des gens qui ne sont pas eux-mêmes propriétaires de l'appartement et qui le sous-louent, c'est clair que c'est illégal. Mais vous êtes propriétaire d'un appartement que vous louez. Si c'est pas fait à une échelle industrielle, les recours juridiques pour l'instant sont compliqués.
Oui. Moi, ce que j'ai lu, c'est que justement en Espagne, c'est c'est l'un des premiers pays européens à avoir réglementé la situation.
À faire des descentes dans les appartements.
Oui. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que face aux mobilisations, la police a décidé de aller visiter quelques appartements parce qu'il y a, d'après les voisins qui critiquent tout ça, il y a 70 appartements qui sont autorisés pour être reloués et il y a 1000 et quelques qui sont proposés sur le site. Bon, sur les sites. Et du coup, ils veulent un petit peu réglementer ça.
Et vous trouvez ça pas mal, finalement?
Non, moi, le pouvoir rester chez quelqu'un d'autre, je trouve que c'est super. Et moi, je suis pas du tout contre. Au contraire, moi, ce truc de coopératif qui est en train de se créer sur le web...
C'est pas vraiment coopératif.
Pas coopératif, mais ce que je veux de collectivité,
c'est
de s'organiser.
Autre,
Non, mais s'organiser un peu, avoir toujours besoin de tomber à un hôtel un peu impersonnel.
Ouais, une agence, etc.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, Vibeke? Parce que
alors,
ça rapporte quand même. Hein,
première
ça
réaction
10%
quand elle
du PIB de la ville.
Ce qui s'est passé et avec les Italiens,
l'envie de les connaître,
etc. Non, mais s'il y a des voisines norvégiens qui écoutent, ils vont y aller, hein, parce que ça a l'air formidable. Bon, mais ça c'était une petite
cette
boutade.
Fois-ci, pas dans la neige.
C'était une petite boutade.
Non, mais plus sérieusement, le tourisme rapporte beaucoup d'argent à la ville.
Oui, ouais. et
dans un pays où c'est encore la crise économique.
Oui, et puis le low cost, on est confronté à ça tous les jours. En ce moment, il y a la grève des pilotes d'Air France qui sont contre leur propre compagnie low cost Transavia, qui voudrait que ça soit les mêmes conditions. Et c'est vrai que ça nous énerve quand on est voisin, peut-être d'un appartement comme ça, mais on trouve ça formidable quand
on va y revenir. Vous avez encore beaucoup d'autres sujets, effectivement. Ouais. C'est toutes nos contradictions de voisins et de voisines. Vous restez avec nous, les tchatcheuses d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Sud. Vous avez la liberté de papillonner, de faire votre miel de l'actualité, de votre choix. Nous nous retrouvons juste après le flash dans 3 minutes.
Sept milliards de voisins. On est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, rendez-vous des tchatcheuses aujourd'hui. Trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité de leur choix de ces dernières semaines ou de ces jours-ci. Autour de la table, la journaliste chinoise Yihan Hu, la norvégienne Vibeke Knup-Rachlin et l'argentine Nathalie Kant. Et quant à vous, évidemment, les voisines, vous savez que le standard est toujours ouvert. Si vous prenez l'envie de participer en tant que femme journaliste dans votre pays, 33 1 84 22 71 71.
Vote yes and put Scotland's future in Scotland's hands.
Et avec l'accent, Vibeke Knup-Rachlin, vous rentrez de Londres et vous avez acheté un kilt.
Absolument. Et non, c'était très curieux. C'était le week-end dernier et j'ai eu le sentiment que c'était le moment où les Anglais prenaient conscience de ce qui leur arrivait si par hasard l'Écosse vote oui dans deux jours.
Oui, jeudi prochain.
Et on voyait ça, par exemple, dans les unes des journaux, il y avait Elisabeth, la reine d'Angleterre, qui était masquée, etc. Il y avait d'autres, une dont je me souviens pas exactement, mais toutes allaient dans le même sens, c'est « Ah non, ça peut pas nous arriver ». Alors que
si le oui l'emporte pour l'indépendance de l'Écosse.
Oui, alors ça c'est ce qui s'est passé à Londres, mais si on va chez moi en Norvège, nous on espère que ça soit oui, parce que à ce moment-là, on va avoir un autre pays européen qui ne sera pas dans le marché commun comme nous ne sommes pas non plus.
Donc vous serez moins isolés.
Oui, et voilà, deux copains.
Ouais. Mais donc, vous avez eu quelles sensations à Londres en dehors des unes?
Panique, parce que c'est vrai que ça va quand même, bien sûr pour les Écossais, mais aussi pour les Britanniques, avoir une grande signification, et notamment économique. Je veux dire, l'Écosse a beaucoup de ressources, hein. Il y a du pétrole, il y a, au large de l'Écosse, il y a plein de choses. Et c'était le sentiment que j'ai eu, c'était pas seulement une panique comme ça pour des raisons politiques et économiques,
historiques aussi.
Non, c'était sentimental.
Oui, c'est ça.
C'est ça,
parce que l'Écosse est dans la couronne depuis le 18e siècle, hein, le début du 18e.
Voilà. Et puis, ils peuvent pas nous faire ça.
Ouais. Non, moi, je me demandais ça quand je vous entendais, si vous avez pas senti aussi une sorte de tristesse.
Si.
Moi, j'ai un collègue irlandais, par exemple, qui travaille sur ce sujet maintenant, actuellement, et il me dit, ça va être quelque chose de très différent, ça fait de longues années qu'on est tous ensemble, on connaît les hymnes des autres. Ça, c'est incroyable, ils connaissent les hymnes, un Irlandais peut chanter l'hymne de l'Écossais.
Ouais, je crois que de loin, pour les Chinois, je suis désolée, mais ils s'en fichent un peu le résultat.
qu'on ne connaît pas, hein, une issue très incertaine pour le moment, sondages très serrés entre le oui et le non.
Du coup, que ce soit oui ou non, le résultat, ça leur est égal.
Bon,
mais
vous aussi vous en fichez, Yihan Hu?
Je pense que les Chinois pensent que c'est déjà magnifique de pouvoir voter pour son propre destin.
Ouais, exactement. Jamais le Tibet votait oui ou non pour l'indépendance.
J'oubliais juste un argument de poids. C'est le même jour qu'on a annoncé la deuxième grossesse de Kate. Et il y avait même des commentateurs qui disaient que c'était fait exprès pour faire réfléchir les Écossais.
On passe à un autre sujet avec vous, Yihan Hu, chez vous en Chine. Un sujet qui concerne les femmes. Ce qu'on appelle chez vous, alors c'est pas de l'actualité immédiate, ça date de plusieurs années, mais sur les blogs, on en parle de plus en plus. Les femmes qui restent.
Voilà, donc en chinois...
C'est une expression douloureuse, les femmes qui restent.
Oui, tout à fait, parce que le terme est relativement péjoratif au sens propre, signifiant que les femmes qui restent ou celles dont on ne veut plus, en fait. Donc c'est un terme qui est inventé par le gouvernement en 2007 pour qualifier les femmes éduquées de plus de 27 ans, mais qui choisissent rester célibataires, donc de ne pas se marier. Et parce que, en fait, dans la vision chinoise, une femme doit se marier entre 25 ans et 30 ans.
Donc il y a pas que dans la vision chinoise, hein, je vous rassure.
OK. Donc mais à partir de 27 ans, donc on commence à juger que c'est un âge très avancé pour se marier, pour fonder une famille et on peut se dire que on dépasse ce seuil de 27 ans, plus on dépasse ça, plus ça va être difficile voilà de trouver un mari. Mais bien paradoxalement, ce sont des femmes les femmes qui restent sont des femmes elles sont ni pètes ni moches, bien au contraire, elles sont souvent jolies et qui ont suivi une éducation hyper avancée.
Elles ont des bons jobs en général.
Exactement, et qui gagnent bien et qui est très très indépendante économiquement.
Ouais. Et donc, elles vivent majoritairement en ville, dans les grandes villes.
Exactement, comme Pékin, Shanghai et Guangzhou. Donc je voudrais partager ma vision en fait sur les raisons sociales de pourquoi ça existe ce genre de groupe en fait de femmes qui restent.
Comment on dit chez vous d'ailleurs en chinois?
Shengnu.
Oui, c'est ça, les femmes qui restent.
Oui, voilà, donc Shengnu. En fait, d'abord, je pense que les souvent en Chine, les filles qui savent bien étudier, ce sont des filles plutôt sérieuses. Donc qui se sentent un peu mal à l'aise dans une relation amoureuse, parce que t'es lycée, si une fille trouve un petit copain, il y a le professeur, il y a les parents qui viennent dire c'est pas bien pour les études, donc elles se sentent un peu réticentes dans une relation amoureuse, donc elles ne savent pas forcément comment aimer et comment être aimée. Donc on l'appelle au lycée, ça c'est l'amour précoce, donc trop tôt. Mais par contre, ce qui est très marrant, c'est que c'est les mêmes parents des mêmes filles
qui ensuite vont mettre la pression. Mais comment ça se fait, t'as toujours pas trouvé
à l'université? Exactement, c'est vraiment très très marrant. D'autre part, donc il y a le choix réciproque qui n'est pas encore établi dans une relation amoureuse. Ça veut dire que les femmes ne choisissent pas certainement, comme elles ont déjà un niveau, donc elles choisissent pas des hommes qui ont suivi moins d'éducation, alors que les hommes bien établis dans la société, leaders d'entreprise.
Bon, mais ça c'est une constante internationale quand
exactement.
Même.
Exactement.
Hein.
Ils préfèrent prendre des
Femmes moins diplômées.
Et jeunes, jolies, qui soient présentables.
Mais aujourd'hui, alors finalement, on s'épanche beaucoup dans les blogs sur Internet. Ces filles-là, c'est Shengnu, c'est ça? C'est comme ça que vous dites?
Shengnu.
Oui. elles assument aujourd'hui, elles disent, oui, j'ai plus de 27 ans et c'est mon choix.
Exactement. Comme des femmes qui ont déjà du niveau, donc il y a leur propre caractère, donc il y a des horizons encore plus grands que les femmes qui ont suivi moins d'éducation, donc elles ne veulent pas succomber au regard des autres, de la société, elles rebellent. Donc pour elles, Shengnu, comme c'est en chinois, il y a un autre sens. Donc pour elles ne sont pas des femmes qui restent, mais des femmes qui réussissent, parce que Sheng, ça peut aussi dire réussir.
D'accord, le jeu de mots, on saura tout. Ouais.
Non, j'allais simplement dire que ça me fait penser un tout petit peu, pas exactement, mais aux Catherinettes en France. C'est que ce sont des...
Oui, il y a longtemps.
Il n'y a pas longtemps. Non, ça existe encore. Ma fille est Catherinette et on lui rappelle tous les ans parce qu'il y a la journée des Catherinettes ou je sais pas quoi. Donc
Pensez aussi à ces cérémonies de mariage où la mariée lance sa jarretière qui la récupère se mariera dans l'année. Il y a toute cette culture là effectivement de la chance.
Non mais
qui vous arrivera.
Et puis pourquoi est-ce qu'il faut absolument se marier? On peut être très bien seul. On peut aussi vivre seul et pas forcément, ça veut pas dire qu'on exclut d'avoir un ami, des amis, peut-être même un enfant.
Nathalie, moi je suis une Shengnu.
Je n'osais pas vous poser la question. Et vous, Yanyu, vous êtes.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller en Chine. Non, mais ça me fait un petit peu penser. C'est-à-dire, c'est une pression qui existe un peu partout. Peut-être on l'a.
D'ailleurs, j'en profite pour signaler que le 29 septembre, on va consacrer toute une émission chez 7 milliards de voisins aux femmes célibataires dans le Maghreb et qui décident de rester célibataires.
Très bien. Non, mais je pense, par exemple, je me souviens, il y a quelques temps, je suis partie en reportage en Équateur et j'étais en Équateur, le pays, en Amérique latine, et j'allais dans des petits villages et tout le monde, il arrive un âge où tout le monde est en couple et marié. Mais c'est pas tellement pour... Je sais pas si je dirais que j'ai senti...
Vous allez avoir des propositions là sur Facebook,
J'espère. Non, mais...
Vous avez une super voix.
Non, non, mais pas vraiment pour une pression, mais plutôt parce qu'il y a aussi une priorité. de former une famille. Et c'est quelque chose que je trouve que peut-être dans des villes très urbaines, bon, comme Paris ou peut-être dans d'autres, où tout va très vite et où aussi on a la, où, tout d'un coup on décide que la carrière professionnelle est aussi importante et on n'a pas envie de céder trop. Bon, c'est pour ça aussi que les applications pour trouver un mari ou un copain augmentent ici.
Les sites de rencontre, ça fonctionne à plein régime hein, en Chine.
Ça fonctionne là-bas ou pas?
De plus en plus. Maintenant, on compte à peu près 500 000 de femmes de Shenyu dans des grandes villes, à Pékin. À Pékin, par exemple.
Donc, 500 000 femmes célibataires depuis 27 ans et qui s'inscrivent sur des sites de rencontre éventuellement pour rencontrer.
Bah, je dirais pas qu'elles s'inscrivent tous sur les sites de rencontre, mais ouais, c'est une solution.
Ouais. Enfin, les sites de rencontre fonctionnent à échelle industrielle. Chez vous en Chine. Nathalie Quinte, retour sur, allons parler de la division tout de même hein, qui sème un peu la panique hein, entre le oui et le non à l'indépendance de l'Écosse. Retour sur une autre division chez vous en Argentine. Votre pays est très mal en point financièrement. La faute à qui? Les fonds vautours, vous dites.
En fait, ce qui se passe, bon, vous êtes plus ou moins au courant de ce qui se passe actuellement par rapport
On sait qu'il y a encore pas longtemps, on dirait, c'est merveilleux, l'Argentine est remontée d'une si terrible crise quelques années, et puis là, patatras.
Non, il y a des... au moment de la crise en 2001, on avait besoin d'argent, on avait une dette, il y a des fonds de spéculation et des créanciers qui ont acheté cette dette. C'est-à-dire, ils ont investi dans cette dette. Le gouvernement, en 2005 et en 2010, propose une restructuration de la dette qui est acceptée par la majorité, et il y a une partie de ces créanciers et fonds vautours, je crois que c'est le 13%, qui n'accepte pas cette restructuration. Et un procès en justice commence jusqu'à maintenant qui décide finalement que l'Argentine doit payer aux fonds de spéculation appelés maintenant fonds vautours. Bon, il y a tout un problème parce que maintenant ils doivent être payés beaucoup plus de ce qu'ils avaient acheté la dette. Donc c'est ça tout le sujet. Et aussi dans un contexte économique en Argentine particulier parce qu'il y a la stagnation économique et en plus une inflation de plus de 31%. Et alors ce qui se passe...
Plus 31% d'inflation à l'heure actuelle.
Non, c'est incroyable. C'est-à-dire on va... tout augmente constamment. C'est-à-dire par exemple, je dis un petit truc, les devis des architectes. Quand on fait un devis et on veut pas les architectes, mais les gens qui sont autour, ils disent bon, ici, moi j'ai vu une fois une copine m'a raconté que elle a demandé mais combien de temps pour ce prix ces honoraires. Ah non mais 2 ans. Il lui a dit ouais non. Et en Argentine c'est 10 jours.
En 10 jours ça change. Le devis est caduque au bout de 10 jours.
Oui et ça change. Et bon et la présidente ce qu'elle a proposé c'est que les les créanciers et les fonds, ce qu'elle appelle fonds vautours, au lieu d'être payés à New York, soient payés en Argentine, parce que bon, ça va lui permettre de, esquiver un gel qu'a mis la justice. Mais du coup, il y a quelque chose de particulier qui se passe en Argentine, c'est que il y a comme une polarisation entre patrie ou vautour. C'est-à-dire, selon si on soutient ou pas la présidente, on est pour ou contre la patrie.
Donc,
on est pour la souveraineté.
Vous avez le sentiment que vous êtes pris entre le marteau et l'enclume ou pas?
Oui, moi je pense que vu de loin, non, c'est clair que c'est horrible de voir payer tellement d'argent pour une bataille mal menée au fond vautour, parce qu'on va perdre beaucoup d'argent dans le pays. Après, je pense aussi que il y avait des manières de résoudre ça avant que ça arrive.
C'est la fin de Kirchner, ça, non?
Oui, là, maintenant, on arrive... on arrive à la fin du kirchnerisme, parce que ce sont plus de 11 ans qu'elle est. Il y a des élections l'année prochaine. Et il y a plusieurs candidats qui sont en lice, mais c'est une espèce de fin du kirchnerisme, oui.
Bon, pour terminer l'émission, un petit sujet. Enfin, pas si léger que ça, d'ailleurs. Vibeke Knoprachin, vous avez un petit pays, mais vous savez ce qui est. C'est déjà pas mal.
Ah oui, on est relativement bon.
Et vous voulez évidemment nous parler d'un enfant terrible du ski norvégien. Oui. Chez vous, c'est le ski de fond.
Le ski de fond. Pas seulement. On est assez bon en ski. Mais enfin, c'est effectivement cette fois-ci le ski de fond. Et nous avons un skieur qui s'appelle Petter Northug, qui est d'habitude excellent et qui a gagné déjà plein de courses.
4 médailles olympiques, 12 médailles aux championnats du monde en ski de fond.
Et puis, il a commencé je crois que ça lui a pris complètement la tête et il voulait plus faire partie de la fédération nationale et s'entraîner avec les autres. Il a engagé son propre entraîneur. Mmh. Enfin, il voulait faire bande à part parce que théoriquement, il était tellement bon que les autres étaient
Quoi. Ça nous fait penser un peu à Manodou, sauf que lui, c'est quand même allé très loin.
Oui, et un jour, il y a pas très longtemps, il a conduit sa voiture et il a craché. Et non seulement il a craché, mais il a laissé son... C'est lui qui était sur le siège avant avec lui, le siège, oui, tout seul dans la voiture, il était blessé. Donc il a abandonné son copain blessé.
Donc il est mis en accusation, conduite en état d'ivresse, voilà. Vitesse excessive, non assistance à personne en danger.
Exactement.
C'est ça, à la suite du crash.
Exactement.
Comme vous dites. Cracher en norvégien, c'est avoir un accident de voiture.
Ouais. Et il doit, enfin on doit connaître le verdict aujourd'hui. Je le connais
vous
pas encore.
Vous êtes hyper déçue, vous, en tant que norvégienne, de lui, de ce champion de 27 ans qui rayonnait sur les pistes.
Je suis déçue parce que je considère que quand on est à ce niveau-là et que tout le monde a facilité son ascension et lui a permis de gagner ce qu'il a gagné, eh ben il a quelques responsabilités et il doit pas se comporter n'importe comment.
C'était le mot de la fin. Les tchatcheuses, je remarque que pendant toute l'émission, aucune d'entre vous n'a évoqué le livre d'une certaine Valérie. Je ne sais pas ce que vous
dites. C'est pas nécessaire.
C'était pas nécessaire. Eh ben moi, je dis ouf et je vous dis merci pour ce non-moment. Vous restez avec nous, les tchatcheuses.
Oui.
Reportage dans quelques instants, cette fois-ci à Bamako, aux côtés de jeunes aveugles qui en veulent.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk and all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know.
All About That Bass, Meghan Trainor chez 7 milliards de voisins sur RFI, direction Bamako maintenant, au cœur d'une formation encore totalement nouvelle dans la capitale malienne pour de jeunes aveugles qui n'ont jusqu'à maintenant jamais pu accéder à Internet et à l'informatique, doublement exclus. Donc c'est un reportage de David Bachet. Il a suivi pas à pas des enseignants, des fonctionnaires et de jeunes chômeurs. Écoutez-le.
Nous, nous voyons, nous ne pouvons rien faire souvent sans les voyants. Nous leur donnons souvent nos livres pour qu'ils nous dictent, souvent des cahiers. Un enseignant de lettres histoire géo doit faire beaucoup de recherches, beaucoup, beaucoup de recherches pour pouvoir convaincre ses élèves, pour pouvoir bien mener sa vie. Mais avec l'ordinateur, ça nous permet de remplacer les voyants par la machine.
Bouton allumé, activé, barre espace, ouverture Microsoft Word.
Nous pouvons écouter seulement Jaws, nous pouvons écrire tout ce que nous voulons et nous pouvons lire tout à travers Jaws seulement.
Jaws, c'est le logiciel qui transmet dans votre casque, sur vos oreilles, ce que vous êtes en train de faire en même temps à l'ordinateur.
Oui.
Jusqu'à ce que vous commenciez ces cours, vous utilisiez un petit peu l'ordinateur ou c'était vraiment impossible?
Bon, c'était vraiment impossible. C'est grâce à la formation là que je suis parvenu à me débrouiller. Sinon, avant ça, je ne savais même pas comment ouvrir un ordinateur.
Vous appuyez sur CTRL. On va passer par les commandes clavier d'abord. Vous appuyez sur CTRL, vous le maintenez appuyé. Et vous appuyez sur C. Il va vous dire sélection copier dans le presse-papier.
Je me nomme Fessa Diarra. J'ai 28 ans. Je suis host de formation. J'ai terminé en 2009-2010. Je suis en quête d'emploi exactement.
Depuis combien de temps est-ce que vous cherchez?
Depuis 3 à 4 ans. La quasi-totalité des offres d'emploi se passe sur le net. Donc sans une formation en informatique, peut-être on ne pourrait pas accéder à ces offres d'emploi. Tout se passe avec maintenant les outils informatiques. C'est quelque part, on dit même qu'on veut aller vers un bureau sans papier. Donc qui dit un bureau sans papier, donc dit forcément une indispensabilité des outils informatiques. Donc je pense que la maîtrise de cet outil-là, ça va considérablement vraiment augmenter mes chances pour être recruté.
Voilà. Okay. Donc allez-y sur le bureau, on va coller l'élément que vous avez sélectionné, on va le coller sur le bureau.
Microsoft Outlook.
Je suis en train de leur enseigner les manœuvres élémentaires de Windows, couper, coller et créer un dossier, faire la différence entre un dossier et un fichier.
Boîte de dialogue Microsoft Outlook. Bouton attendre que le programme réponde.
Tab.
Bouton fermer le programme.
Espace.
Bouton annuler. L'activer voilà. Par espace.
Il est installé là-dessus un logiciel qu'on appelle Jaws. Jaws, c'est un logiciel de revue d'écran qui transmet sous la forme vocale l'écriture de l'écran.
C'est pourquoi tous vos élèves portent un casque.
Effectivement, vous avez parfaitement compris. Parce que si on devrait procéder par des haut-parleurs, on allait avoir un peu beaucoup de bruit. Bon, ce qui serait un peu dérangeant. Tu peux placer tes doigts. C'est les claviers ordinaires. Parce que nous leur apprenons la technique des 10 doigts. Ce qui fait que les doigts sont disposés sur la rangée de départ qu'on appelle la rangée QSDF. Que moi, j'ai affectueusement appelé les 4 soldats de France, QSDF.
Et puis, c'est l'ordre des lettres sur
voilà,
le clavier.
Voilà, exactement, c'est l'ordre des lettres sur le clavier. Et puis, il y a la main droite, c'est GKLM.
Ça veut dire qu'il faut retenir par cœur où sont placées les touches sur le clavier.
Oui, oui, c'est là. Mais aussi, il y a un logiciel qu'on appelle l'apprenti clavier qui permet à une personne malvoyante ou non-voyante de maîtriser le clavier. Le clavier est incontournable pour les non-voyants puisque nous, nous passons par le clavier pour faire les commandes que les voyants feraient avec la souris.
Vous voulez vous enregistrer le modifique. Boîte de dialogue d'attaque armée.
Voilà. Bienvenue à RFI.
Bienvenue à RFI pour assister à votre formation.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. 7 milliards de voisins.
Et pour nos auditeurs à Bamako et dans la région, sachez que vous pouvez vous renseigner auprès de l'Institut des jeunes aveugles du Mali et la Fondation Ismaïla Konaté à Bamako. Et le premier formateur lui-même aveugle s'est formé d'ailleurs en France, à l'Institut Montéclair d'Angers. Ensuite, il a formé à son tour 4 autres formateurs, eux aussi aveugles, qui ont donné des formations à 200 stagiaires. Et pas seulement au Mali, mais aussi en Mauritanie, au Sénégal et en Guinée. Ben oui, ça a l'air, c'est vraiment la double exclusion, hein,
mais
finalement.
Oui, mais oui.
Pas un handicap et pas d'internet.
Oui. Mais effectivement, ça dépend où on se trouve. Parce que, bon, je ne vais pas sans arrêt citer la Norvège, mais en Norvège, quand même, les aveugles, ils ont vraiment tous les outils dernier cri et ils ne sont pas trop mal. Mais je voulais juste, c'est un petit coup de cœur personnel, vous rappeler pour les voyants, surtout, d'aller voir le musée Louis Braille. Il y a avec sa tombe juste
en
à côté.
En région parisienne.
Oui, avec sa tombe juste à côté où on voit ses mains. C'est très émouvant et on voit, parce qu'il n'est pas aveugle de naissance, comment il est devenu aveugle et tout ce qu'il a fait, c'est quand même un nom.
Et ce qu'on ne dit pas en Afrique, là, ce sont tous ces gens qu'on a entendus dans le reportage, les obstacles immenses qu'ont traversé ces hommes et ces femmes non-voyants, déjà pour mener une scolarité normale et pour ensuite devenir enseignant, fonctionnaire et avoir la chance d'accéder à ce type de formation. Ça veut dire que ce sont des élèves incroyables à l'école.
Non, c'est vrai que c'est super profiter de cette ère, je sais pas comment on dit, de technologie, d'avancée technologique incroyable pour améliorer un peu la vie de par exemple des aveugles. Mmh. C'est incroyable qu'ils puissent, oui, que c'est, on a tous les outils nécessaires pour améliorer leur vie.
Ouais, je crois que ça me fait penser à certains ateliers dans certains musées, donc qui sont faits pour sensibiliser les spectateurs en fait pour se mettre place dans leur
à l'univers sonore, hein, c'est
exactement. Je pense que c'est on doit développer plus ça.
Des simulations pour être dans la peau d'une personne non-voyante, dans la peau d'une personne qui ne peut pas se déplacer physiquement, etc. On devrait le faire plus souvent. Vous avez raison. Les tchatcheuses, vous revenez très vite chez les 7 milliards de voisins.
Oui, on espère.
Ouais.
Yihan Hu de la télévision China Business Network. Donc on peut vous voir sur cette chaîne chinoise. On peut vous lire dans le quotidien en norvégien Aftenposten et Nathalie Kant du quotidien argentin La Nation. J'ai bien prononcé?
Oui, non, mais toujours les Français font le Z. Mais c'est Nation.
Pardon, la Nation.
Non, mais il n'y a pas de problème.
Je ne suis pas hispanophone, mais italianophone, ce qui sert beaucoup moins.
Mais c'est parfait prononcé.
Tout est noté, bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur les tchatcheuses, sur notre site RFI.fr, à la page des 7 milliards de voisins. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Romain Dubrac. Et pour toutes vos réactions, il y a toujours la boîte mail 7milliards@RFI.fr. Demain, 7 milliards de voisins, vive la cuisine de rue ou à bas la cuisine trop pressée. Pourquoi la cuisine dans les villes du monde se réinvente sans cesse? Réponse avec des chefs, des grands fourneaux, pas snobs d'ailleurs, dont Thierry Marx. Et puis bien sûr, vous nous appelez, vous nous donnez toutes les recettes de vos petits plats dégustés sur le pouce dans la rue. Vous mangez dans la rue souvent, les filles? Ouais.
Non. Pas très souvent.
Ah bon? Il y a quand même des bonnes choses maintenant.
Oui, les food trucks.
On se retrouve demain, même heure, même endroit.